Allez, un rendez-vous spécial que Radio Prévert vous propose avec le partenaire de votre radio, les enfants. Eh bien, il s'agit du Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, Vallée de la Sarthe et du Loir. En plus court, ça fait CPIE. Et comme je vous l'ai dit, il y a une dame qui est très gentille. Elle a accepté de vous accompagner pour vous donner quelques petites informations, et des grandes d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, sur le développement durable. On va l'accueillir dignement, je sais que vous allez l'applaudir. Elle s'appelle Juliette. Bonjour Juliette.
Bonjour à tous, bonjour les enfants.
Alors Juliette, vous travaillez au CPIE.
Oui, je suis animatrice au CPIE, donc qui est une association environnementale basée à La Flèche.
Et vous avez tout de suite accepté le principe de ce quiz pour enfants, pourquoi ?
Ah bah je trouve ça génial. Bon, les enfants, vous m'excuserez, moi j'ai moins l'habitude de travailler, de poser des questions aux enfants qu'avec mes collègues. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais par contre, oui, on a des collègues qui sont animateurs, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, parce qu'ils interviennent dans les classes du Sud-Sarthe. Donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir partager un petit moment avec vous et de vous parler nature.
Et justement, pour rien trahir, puisqu'on dit que ce qui se passe au sein des séances de l'atelier radio reste au sein de ces séances, mais il y en a plein, Juliette, qui m'ont dit à chaque fois que j'arrivais, est-ce qu'on va aller faire un petit tour au Marais ?
Ah, le Marais, Oui, le Marais, ça plaît bien, le Marais de Crécy-sur-Loire, c'est sûr, il y a de belles choses à observer. Alors oui, nous, on fait pas mal d'animations au Marais, mais il y a plein d'autres sites aussi qui sont fabuleux, mais le Marais, c'est vrai que ça plaît bien en général.
Bon, c'est comme si on les emmenait dans ce milieu, puisque le Marais, c'est pour respecter la biodiversité, faire voir qu'il y a une biodiversité.
Oui, c'est une réserve naturelle régionale, du coup, des Marais de Crécy-sur-Loire à La Flèche, et on peut y observer énormément d'espèces qui sont justement géniales pour nos yeux, pour notre environnement. Donc j'invite ceux qui ne connaissent pas également à y aller, à aller faire un tour, à se promener. C'est vraiment un très bel endroit.
Des applaudissements pour Juliette de la part de ces trois équipes qui vont s'affronter ici à l'école de Crécy-sur-Loire. L'école s'appelle comment ? Exactement. Alors, l'équipe ELV, les micros d'or, composée de...
Elio,
Léo,
Yvonne.
Et il y a également l'équipe Kérikou, dont les membres sont...
Manon,
Nolan,
Tilouane.
Et la troisième équipe, c'est l'équipe les Bisounours.
Eden, Liam,
Méline. Chaque équipe est prête. Alors, écoutez bien, voici la première question.
Qu'est-ce qu'un arbre têtard ?
Qu'est-ce qu'un arbre têtard ? C'est l'équipe ELV qui tente de répondre.
Un arbre avec des grenouilles dessus.
Est-ce que c'est ça la bonne réponse, vous pensez ? Non. L'équipe des Bisounours a envie de donner sa réponse.
Un arbre vert.
Un arbre vert. Vous voulez tenter aussi, équipe Kérikou ? Vous donnez votre langue au chat. La question, c'est quoi un arbre têtard ? A dit Juliette.
C'est un arbre vert qui a des têtards.
Bon. Dernière.
Ah non, c'est un arbre avec des feuilles en forme de têtards.
C'est un...
Dernière tentative.
C'est un arbre avec des têtards.
Bon, je pense que vous avez épuisé votre lot de réponses. Maintenant, on va écouter la bonne réponse avec Juliette Achalet du CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir.
Alors c'est un arbre qui est taillé dans une forme particulière par l'homme, de manière à favoriser la production de rameaux sur la tête de l'arbre. Cela permet d'éviter d'avoir des arbres trop grands et leur donne une durée de vie plus longue, car le risque de casse des branches évidemment diminue. Donc il y avait plusieurs utilisations de ces arbres-là, de cette taille à l'époque, donc notamment pour fournir du bois de chauffe, mais aussi l'osier était récupéré pour délimiter des parcelles, où on faisait des haies en osier justement. Peut-être que vous pourrez aller voir quelque part, on en voit justement au Marais de Cré, des haies d'osier, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et on l'utilisait également pour le broyat. On les appelle aussi des trognes, les arbres trognes. Cette taille, elle s'observe tout particulièrement dans les zones de bocage, au bord des chemins ou des canaux. Elle est réalisable sur de nombreuses espèces, peut-être que vous connaissez déjà, comme le chêne, le frêne, le saule ou le châtaignier. Les arbres têtards ont en général un fort potentiel d'accueil pour la biodiversité.
Merci beaucoup Juliette pour cette réponse complète à cette première question. Et si les enfants sont d'accord, on va enchaîner puisqu'on sent qu'ils sont tous prêts à bondir pour répondre à la deuxième question que voici.
Alors là, c'est une question un petit peu plus libre parce que j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur vous aussi. Qu'est-ce que vous préférez faire dans la nature comme activité ?
Allez, on va commencer par l'équipe ELV. Qu'est-ce que vous préférez faire dans la nature comme activité ? Équipe ELV, on commence avec toi.
La pêche et notamment la pêche à pied. Voilà.
Oui.
Se promener.
Se promener et faire du vélo.
Allez, maintenant, les membres de l'équipe Kirikou, qu'est-ce que vous préférez faire dans la nature ?
Voir les animaux.
Pique-niquer, se balader et pêcher.
Faire du vélo.
Et maintenant, l'équipe, les bisounours. Alors, la nature, ça rime avec quoi pour vous ?
Bah, faire de la pêche, se promener, bah, voir les animaux.
Je vais pêcher, je joue au foot et je ramasse les déchets.
Très bien, ramasser les déchets, c'est important parce qu'on voit des zones boisées, des forêts qui sont souillées de déchets, c'est pas très beau.
Se promener et faire des cabanes.
Merci les enfants, j'espère que Juliette Achalet du CPIE est ravie d'apprendre que vous en avez tous sous le pied, comme on dit. Vous savez vraiment qu'il est important d'être au contact de la nature et merci d'avoir pu répondre de façon si libre. Maintenant, la troisième question.
Que mangent les chauves-souris ?
C'est l'équipe, les bisounours qui a levé la main en premier. Que mangent les chauves-souris ?
De la viande.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette réponse ? L'équipe Kirikou et puis ELV après ?
Bah, ils mangent de tout.
Alors, répond l'équipe ELV ?
Ils mangent des insectes qui vivent la nuit. Et c'est tout.
Donc, la viande pour l'équipe Les Bisounours, de tout pour l'équipe Kirikou, des insectes pour l'équipe ELV. Est-ce que Juliette, une des équipes, a trouvé la bonne réponse ? Roulement de tambour.
En France, les chauves-souris sont toutes insectivores. Ça veut dire qu'elles mangent des insectes uniquement. Donc elles consomment des insectes, surtout ceux qui, comme elles, sont actifs la nuit. Évidemment, c'est plus simple. Donc, y a quoi comme insectes actifs la nuit ? Il y a le moustique, qu'on connaît bien, il y a les papillons de nuit, il y a les sauterelles, les araignées ou encore les scarabées. Et dans le reste du monde, on retrouve d'autres types d'alimentation pour les chauves-souris, comme le poisson, les fruits, le nectar des fleurs. Donc voilà, il existe plein de chauves-souris dans le monde, mais celles qui sont en France, en tout cas, se nourrissent uniquement d'insectes et pas de sang, comme on pourrait entendre parfois. Voilà.
Merci pour cette réponse concernant le mode alimentaire des chauves-souris. Une quatrième question, il y en a plein, vous verrez les enfants, puisque vous m'avez dit que vous êtes des champions en matière d'environnement, de développement durable. Eh bien, Juliette Achalet et ses collègues ont tout prévu pour vous. Et voici la quatrième question.
La quatrième question, c'est citez-moi des animaux qui vivent dans les étangs ou les mares, ou à proximité d'ailleurs, pas forcément dedans. Et attention, il ne faut pas dire deux fois le même animal.
Quelle équipe a levé la main en premier ? Allez, à cette question, on va être tout à fait sympa avec tout le monde. On va commencer par... Vous me dites stop ?
Stop, stop !
C'est Manon, c'est Manon !
Allez-y, c'est l'équipe Kirikou qui commence.
Les grenouilles.
Les poissons.
C'est bon ?
Les cygnes.
Les canetons.
C'est bon pour vous, en termes de proposition, équipe Kirikou. Et maintenant, l'équipe, les bisounours.
Des araignées d'eau.
Des araignées d'eau. Qu'est-ce que c'est, les araignées d'eau ?
Des araignées qui vivent sur l'eau.
D'accord.
Et qui voient comme si c'était des voitures.
Ah oui ?
Ils sautent et ils vont aussi.
Ah oui, ça crée des sillons sur l'eau, c'est ça ? Très bien.
Et aussi des canards, des martins pêcheurs aussi.
Bon, ce sera tout. Et c'est vrai que l'équipe ELV est vraiment à fond. Et c'est vrai que Juliette a donné des consignes qu'il ne faut pas répéter deux fois le même animal. C'est vrai, vous avez raison. Bon, allez. Équipe ELV, votre réponse.
Bah, il y a aussi... Il y a aussi...
Vas-y, le temps qu'il trouve.
Il y a aussi les carpes.
Oui, qu'est-ce que vous voulez rajouter d'autre?
Les hérons, les cormorans.
C'est bon? Écoutons Juliette.
Eh bah, ben, il y en a plein, des animaux qui sont dépendants des étangs et des mares, autrement dit aussi des zones humides. Il y en a énormément, il y a plein d'insectes, par exemple, comme les libellules, les demoiselles, les dytiques, les neppes, les hydrophiles, etc. Il y a aussi beaucoup de larves d'insectes, parce que les insectes pondent dans ces mares et étangs qu'on peut retrouver. Il y a évidemment les mollusques, avec l'hymenée, des moules d'eau douce, des vers de vase, plein de choses un peu plus en profondeur, pour le coup. Les crustacés aussi, comme le gamard, les écrevisses, et également, et on les aime beaucoup, les amphibiens, tritons, grenouilles, crapauds. Attention, par contre, on les retrouve uniquement en période de reproduction ou lorsqu'ils sont jeunes. On ne les verra pas adultes et hors période de reproduction parce que là, ils seront plutôt cachés dans les milieux à proximité des étangs, un peu plus loin, souvent en forêt, voilà. Donc, et il y a également des oiseaux, les reptiles comme la couleuvre, des oiseaux comme le héron, l'aigrette, la poule d'eau, le canard, il y en a plein. Donc j'espère que parmi toutes ces espèces, eh ben, vous avez pu en citer quelques-unes.
Bravo, vous avez fait le comptage, comme on dit, hein.
Alors moi non, ma collègue m'a bien aidée, mais oui, on en connaît, j'en connais quand même quelques-uns, mais j'avoue qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense et je ne les ai vraiment pas tous cités parce que même ce qu'elle a mis, des fois, c'est inconnu au bataillon, donc voilà.
Prenez-en de la graine les enfants, prenez-en de la graine. Allez, le jeu, le quiz avec le CPE, Vallée de la Sarthe et du Loir et Radio Prévert, dans le cadre de cet atelier radio du pass éducatif de la communauté de communes du Pays Fléchois à l'école de Cré-sur-Loire. Continue, d'autres questions arrivent et voici la cinquième.
La cinquième qui est un petit peu plus scientifique et j'espère que dans mes explications je ne me perdrai pas.
Non, jamais.
Mais... Alors la question c'est pourquoi les feuilles des arbres changent de couleur et tombent en automne?
Allez, on commence par l'équipe ELV.
Vas-y, Elio. Ça fait comme si les feuilles aient mouru.
Bah, pour qu'en hiver, il ne reste plus que le bois. Bah, les branches.
Équipe, les bisounours.
Les feuilles tombent en hiver, parce que en été, sinon, il y aura trop de feuilles dans les arbres. Et c'est tout.
Est-ce que vous voulez tenter quelque chose, équipe Kirikou? Non? Bon. ELV pour une dernière tentative?
Vu que les feuilles, ça tourne en novembre, non.
Oui? Vas-y. Ouais, c'est la période où on les voit tomber, là. Elles changent de couleur. Et il y en a plein qui tombent, oui?
Et c'est tout.
On va écouter la réponse avec Juliette.
Alors, comme vous le savez déjà, les plantes ont des feuilles vertes. Alors, pourquoi elles ont des feuilles vertes? Parce qu'elles possèdent de la chlorophylle. Donc, la chlorophylle, en fait, c'est un élément à l'intérieur des feuilles qui permet de faire le processus qu'on appelle le processus de photosynthèse. Donc, ça veut dire que la plante, grâce à la chlorophylle dans ses feuilles, va transformer l'eau, le CO2 et aussi la lumière du soleil en sucre pour se nourrir. Et c'est comme ça que les plantes arrivent à survivre. Donc les feuilles sont essentielles pour une plante. Et lorsque l'hiver arrive, et ben, on peut le voir aussi pour nous, hein, la quantité de lumière du soleil diminue et la plante sera donc très peu efficace pour créer du sucre et donc pratiquer cette fameuse photosynthèse. Parce que ça lui demandera beaucoup d'énergie de faire cela à cause du peu de luminosité. Et les plantes préfèrent donc récupérer toute leur réserve de chlorophylle pour les placer dans le tronc ou les racines. Ils le ressortiront au printemps prochain. Il reste alors que dans les feuilles uniquement les autres pigments, comme les carotènes par exemple, qui donnent cette couleur orange, et les xanthophylles qui donnent plutôt la couleur jaune. Et c'est pour ça que ça donne de belles couleurs aux arbres en automne. Quand les températures baissent de trop, les feuilles finissent par mourir par contre et tombent complètement au sol. Par contre, vu que la nature est belle aussi, et bah, justement le cycle continue, elles seront décomposées et deviendront de la nourriture pour le sol et donc pour les arbres et ainsi de suite.
Le cycle continue, avez-vous dit, et nous on est ravis d'apprendre toutes ces belles choses avec vous, et les enfants, hein, ils sont plus intéressés que nous d'ailleurs, parce qu'on tient peut-être de futurs spécialistes de l'environnement parmi eux à l'école de Cré-sur-Loire, allez savoir. Sixième question maintenant, Juliette.
Pourquoi certains oiseaux partent en hiver? Et du coup, qu'est-ce que la migration?
Attention, équipe les bisounours qui a levé la main en premier.
Les oiseaux, ils partent l'hiver parce que ils vont dans des pays plus chauds, en Afrique par exemple, et reviennent quand il fait plus chaud en France.
Est-ce que c'était ça la bonne réponse? Est-ce que vous vouliez dire, hein, je pense.
Oui.
Ça, c'est l'équipe Kirikou qui confirme ELV. Vous vouliez dire la même chose, c'est ça?
Non.
Vous voulez dire quoi, vous?
Bah, c'est parce que les oiseaux, ils trouvent plus forcément assez de nourriture. Et ils ont froid.
Et
du coup, bah, ils changent de pays.
Bon, écoutons la spécialiste, Juliette.
Alors la migration, c'est le voyage annuel aller-retour d'animaux d'un lieu de reproduction à un lieu d'hivernage, qui sont souvent du coup éloignés des uns des autres. Les oiseaux migrateurs parcourent d'ailleurs en groupe plusieurs milliers de kilomètres, et ça c'est très important de le savoir. Ils se repèrent grâce au paysage, à la position du soleil et des étoiles, et sont sensibles aux champs magnétiques terrestres, un peu comme une boussole en fait. Donc ces oiseaux hivernent au même endroit et reviennent au printemps faire leur nid là où ils sont nés. Cela est dû principalement à leur alimentation. Les oiseaux se déplacent pour trouver des endroits plus favorables pour se nourrir. Les hirondelles, par exemple, se nourrissent d'insectes et ils se font très rares en France durant l'hiver. Donc, les hirondelles migrent vers le sud dans des climats plus chauds afin de trouver de quoi se nourrir. Donc, ces oiseaux-là peuvent migrer de continent en continent, de pays en pays. Mais par contre, souvent, on les revoit revenir toujours au même endroit, que ce soit pour la période de reproduction ou la période hivernale.
On en a des questions en stock. Quand je dis on, bah, c'est plutôt Juliette Achalet du CPIE. Et on enchaîne avec la septième. Juliette?
C'est quoi un milieu naturel?
C'est quoi un milieu naturel? J'ai vu un doigt se lever et puis se baisser. Donc, et entre-temps, il y a eu un autre doigt qui s'est levé. On commence avec l'équipe ELV.
Un milieu naturel, c'est un milieu où, par exemple, il y a plein d'oiseaux, plein d'insectes. C'est un endroit dans la nature.
Équipe Kirikou.
Un milieu naturel, c'est où il y a des insectes et des fois où il y a des petits plans d'eau.
L'équipe Les Bisounours. Vous voulez dire la même chose, c'est-à-dire?
J'allais dire que la nature, c'est pareil que il y a des oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Des insectes et des animaux, des fois, qui viennent les vaches. Et il y a beaucoup d'herbes et des arbres. Et il y a peut-être un fleuve à côté pour pêcher.
Un milieu naturel, avons-nous dit. Voici la réponse avec Juliette.
Alors, un milieu naturel, c'est un endroit où vivent les animaux et les végétaux en fonction des conditions climatiques comme l'eau, le vent, la lumière et les conditions physiques comme la température, le sol, le relief. L'homme entretient les milieux naturels, mais n'intervient pas ou peu.
Merci Juliette. Et maintenant, une question, on va dire, qui est hélas dans l'actualité de ces derniers mois, et on espère qu'on va tous faire attention parce qu'elle concerne cette question numéro 8.
Les inondations. Dites-moi un petit peu ce qu'est une inondation, justement.
On commence par l'équipe Les Bisounours, qui est très tactique, il lève la main dès que Juliette commence à poser les questions. Donc, essayez de faire stratégique.
Allez, Liam dit la réponse.
Silence, on fait moins de bruit, on écoute Les Bisounours, oui.
Les inondations sont des barrages, des fois, qui sont cassés et de l'eau rentre dans les villes. Ça peut aller à 1 mètre d'hauteur et ça casse les constructions des personnes et il y en a qui peuvent mourir. On peut perdre des voitures, on peut se faire emporter par le courant et c'est
quelque chose de dramatique,
oui.
Hein, ça peut avoir des conséquences, hélas.
Et les personnes perdent
la vie.
Perdent beaucoup de meubles et ils peuvent perdre leur chien.
Alors, il y a un complément de réponse avec une membre de la même équipe.
Les inondations, c'est quand un fleuve ou une rivière sort de son lit et va dans les villes et les villages.
Merci Méline. Alors, l'équipe Kirikou.
Bah, les inondations, ça peut inonder les maisons. Ça peut. On peut. Les voitures, ils peuvent inonder. Les champs, les routes. Et comme en Espagne, ça arrive des fois. Et voilà.
Vous avez suivi l'actualité de l'Espagne ? Oui, on va en parler après. Oui, équipe ELV ?
Bah, l'inondation, c'est quand un plan d'eau, et bah, il a de l'eau à déborder. Et que. Aussi, ça peut arriver avec des tsunamis que ça inonde.
Bah oui.
Et.
Pas de tsunami,
oui, bah si. Ça peut emporter les maisons.
Ouais.
Non, mais...
Oui, vas-y, complément de réponse.
Bah, les inondations, c'est quand il pleut beaucoup, beaucoup, et bah les fleuves, ils débordent, et puis après, ça inonde dans les villages.
Les inondations, c'est quand les rivières ou les fleuves débordent. Ça peut emporter les maisons, les voitures. Ça peut les détruire, les maisons.
Est-ce que vous avez abordé ce chapitre des inondations à l'école ? Vous en avez déjà parlé avec les professeurs à l'école ? Vous en avez parlé ?
Si, avec la maîtresse,
oui.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Bah, les maisons qui sont sur les bords des côtes.
Donc il faut faire attention,
oui.
C'est ça, en gros ?
Bah, s'ils habitent à côté d'un lac, s'ils inondent, si les lacs, si ça inonde, bah, leur maison, ils peuvent plus exister.
Et avec la maîtresse, on a parlé que icebergs, et bah, ça, si ça cassait, et bah,
le niveau de la mer,
ça faisait rebondir leur mer. Et du coup, et ça faisait une grosse vague et ça faisait un tsunami. Et aussi, pour les inondations, c'est quand il pleut beaucoup et dans les nappes créatives, quand c'est rempli à cause de l'eau.
Les inondations, vous êtes plutôt incollables là-dessus, vous êtes des experts des inondations. Et tout ce qu'on peut vous dire aussi, c'est de faire attention et d'être... précautionneux, d'être vigilant par rapport aux inondations et il faut observer les consignes des autorités lorsqu'il y a des périodes où il pleut beaucoup et qu'on sent que l'eau va déborder, vous l'avez dit, dans les cours d'eau, les rivières, les fleuves, etc. D'accord ? Allez, que les nappes phréatiques sont gorgées d'eau.
Alors, les inondations, en fait, c'est le débordement d'un cours d'eau au-delà de son lit mineur. Une rivière étant crue, lorsqu'on le débit augmente très 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 vite, on parle alors d'inondation lorsque les eaux ne peuvent plus être contenues dans le lit mineur. Donc le lit ordinaire, le lit mineur, c'est entre guillemets l'endroit naturel où se trouve le cours d'eau. Et quand il commence à sortir de cet endroit, et ben justement on dit qu'il déborde. Alors il déborde et envahit le lit majeur, qui sont du coup les espaces à côté du cours d'eau. Et ces espaces vont donc être occupés par de l'eau lors des plus grandes crues. L'inondation devient à risque lorsque nous nous installons dans le lit majeur d'un cours d'eau, en y implantant toutes les sortes de constructions, d'équipements et d'activités. Donc par exemple, si votre maison se situe vraiment très proche d'un cours d'eau, dans son lit majeur, et qu'il y a une inondation, l'eau va sortir de son lit mineur et ira sûrement vers le lit majeur où se trouve justement la maison.
Donc on va faire attention à ce cycle qui est tout à fait, on va dire, renversant. C'est peut-être pas le bon mot pour ça, mais faire attention à soi en ces périodes où dans l'actualité, on entend parler d'inondations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays sont impactés. On croise les doigts pour que les choses se passent au mieux.
Et tout à fait. Et d'ailleurs, nous, on essaye de... Alors, c'est horrible ce qui se passe. Mais on essaye de sensibiliser par rapport à ça. Il faut vous renseigner. On insiste sur les inondations, sur ce que ça représente et sur les premiers gestes à avoir. Parce que souvent, les premiers gestes, ça sauve des vies. Mmh. Actuellement, on est en train d'essayer de construire des outils pédagogiques pour sensibiliser les enfants dès l'école scolaire avec des escape games de façon ludique. Mais voilà, les enfants, si vous avez envie de vous renseigner, si vous avez des questions à poser sur les inondations, sur comment ça se passe, sur les gestes qu'il faut avoir, faut pas hésiter à nous contacter. Vous pouvez nous appeler, nous poser vos questions.
C'est noté. On fera de sorte que cette sensibilisation au risque naturel, puisque c'est comme ça qu'on on soit vraiment synchro, nous aussi, là-dessus, en lien avec vous. Et maintenant, on va parler de quelque chose de plus, on va dire... Amusant ?
Oui, les abeilles. Est-ce que vous connaissez les abeilles ? J'imagine que oui.
Bah oui, ça fait bzzz. Non, non, peut-être que vous feriez ce bruit mieux que moi.
Ah, moi, je fais pas l'abeille.
D'accord. Bon, bah d'accord, merci. Elle m'a lâché en rasmotte, en pleine nature, c'est le cas de le dire.
Alors la neuvième question, c'est pourquoi les abeilles visitent les fleurs ?
Les abeilles visitent les fleurs pour prendre leur nourriture et bah pas la nourriture mais
le pollen
pour l'amener dans leur nid et pour faire du miel et voilà.
Équipe ELV pour compléter ce que vient de dire l'équipe les bisounours.
Elle visite les fleurs pour manger et faire du miel.
Équipe Kirikou.
C'est pour prendre du pollen et pour après faire du miel.
Très bien. Là, je constate que dans cette école, vous êtes décidément des incollables. Vous êtes des scientifiques de haute volée.
Bah non.
Ah bah si, hein non.
Mais dites que c'est que eux.
Non, c'est vous tous. Allez.
Alors, les abeilles visitent les fleurs pour deux raisons. La première, pour trouver une source de nourriture, en effet, le nectar des fleurs. Il s'agit un peu de vous voyez l'eau sucrée contenue dans le fond des fleurs que la majorité des insectes visitent. Et bah justement, c'est pour consommer ce nectar-là. Et dans le cas des abeilles de ruche, des abeilles domestiques, elles apportent à la colonie une partie du nectar pour le transformer en miel. Donc c'est le nectar des fleurs qui sera transformé en miel par les abeilles. Et enfin, la seconde raison, c'est aussi de récolter du pollen pour amener à la ruche et nourrir les larves. Donc le nectar servira au miel et le pollen servira pour nourrir les larves.
Vous nous parlez bien, Juliette. Le miel, c'est si bon. Hein.
Je suis accro au miel, les enfants. Oh,
ouais. On avait deviné. Et les enfants, d'ailleurs, aussi, je pense. Allez, et c'est bon pour la voix. Ouais, oui, ceci explique cela. Les enfants, vous trouvez qu'elle a une belle voix, Juliette, n'est-ce pas ? Bah oui, forcément. Voilà la raison, entre autres. Allez, dixième question.
Que mange un moustique ?
Équipe ELV, que mange un moustique ?
Oh, il levait la main avant.
Bah quoi, je fais comme vous ?
Bah t'as bah, levé
tes la
deuxième question.
Les moustiques, bah ils mangent de la protéine pour ensuite faire leurs œufs.
Ouais, vas-y.
Les moustiques, ça peut manger du miel.
Équipe les bisounours.
Les moustiques se nourrissent de surtout les abeilles de miel et aussi ils se nourrissent de sang dans notre peau et voilà.
Équipe Kirikou.
Bah ils mangent des vers de terre et plein d'autres choses comme ça.
Les moustiques mangent des vers de terre et plein de choses comme ça.
Les vers de terre ils leur mettent un coup de pied.
Équipe ELV qui veut.
Les moustiques ils nous piquent pour récupérer notre sang.
Donc, il faut diviser les moustiques en deux groupes. Le premier est formé des espèces dont, avec les mâles et femelles qui se nourrissent de nectar, de sève et de certains fruits. Ainsi, ce groupe satisfait ses besoins nutritionnels grâce aux composants sucrés des plantes. Et enfin, il y a un second groupe avec des mâles et femelles toujours qui se nourrissent de nectar, de fruits et de sève, mais qui en plus, pour les femelles uniquement, de certaines espèces, vont avoir besoin de sucer du sang. On dit alors qu'elles sont hématophages. Et si elles sucent le sang, c'est parce qu'elles ont besoin en fait, de certaines protéines pour pouvoir faire en sorte que leurs œufs puissent se développer. Donc c'est pour ça que certaines femelles moustiques sucent le sang des animaux et des humains, parce qu'on n'est pas les seuls embêtés.
Donc, pour que les moustiques ne vous embêtent pas, ne mangez pas trop protéinés. Non, c'est une bêtise.
Non, mais en tout cas, vous savez que si un moustique vous pique, c'est forcément une femelle.
Exactement. La fameuse anophèle femelle. On va terminer la première partie de cette émission avec les grands. Et l'équipe ELV, l'équipe Kirikou, l'équipe les bisounours. On a été enchantés de faire ce jeu avec vous. En collaboration avec le CPIE, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement Vallée de la Sarthe et du Loir. Et qu'est-ce que vous dites à Juliette ?
Merci. Bravo. Merci pour les jeux.